Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world! Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue au programme en français sur SBS Audio. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner ce mardi après-midi. Dans cette édition, Patricia Meunier reviendra sur un sujet de premier plan en politique australienne cette semaine. Sur le plan santé, Marianne Murat explorera l'endométriose et la nutrition. Nous apprendrons notamment s'il y a un lieu entre les deux. Nous parlerons également du début des opérations en Australie des autocars Flixbus. Place à présent à l'actualité de ce mardi 2 décembre, un journal qui sera suivi par le magazine des sports de Christophe Mallet. Dans cette édition, des responsables de l'ONU en visite en Australie pour examiner les conditions de détention des migrants. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se penchent sur le plan de paix en discussion. Et en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d'arracher cette semaine un compromis sur le budget de la sécurité sociale. Des membres du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire effectuent une visite officielle en Australie du 1er au 12 décembre pour examiner les conditions dans les prisons, des postes de police et des centres de détention pour mineurs. Ghana Yudkivska et Matthew Gillett se rendront dans l'Australian Capital Territory, en Nouvelle-Galles du Sud, dans le territoire du Nord et en Australie occidentale. Ils y rencontreront des responsables gouvernementaux, des organes de contrôle indépendants et des organisations de la société civile afin d'évaluer la conformité de la politique australienne de détention migratoire avec le droit international des droits humains. Des organisations juridiques, universitaires et des plaidoyers ont déposé une soumission conjointe appelant à l'examen de la détention offshore, des mécanismes de contrôle et de l'impact sur les personnes vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes transgenres et les enfants. L'avocate Alison Pattison du groupe Human Rights for All affirme que les conditions de détention doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.
I am still monthly finding people in Australia's immigration prisons who are impacted by the NZYQ decision of the High Court from November 2023. So we're talking more than 2 years later, just because there is no proper system that the department has set up to identify such people. And this will lead to compensation claims against the government and even more money being spent for no reason on arbitrary detention.
Une enquête historique sur la violence sexuelle au sein de la Force de défense australienne est annoncée aujourd'hui, un an après qu'une recommandation a été formulée par une commission royale. Le ministre des Anciens Combattants et du Personnel de la Défense, Matt Keogh, doit profiter d'un discours au National Press Club pour le lancement officiel de cette enquête. Une telle instruction figurait parmi les 122 recommandations du rapport final de la Commission royale sur le suicide chez les militaires et les anciens combattants. Les autorités budgétaires au Sénat ont révélé que le nombre des visas étudiants aboutissant à une décision modifiée au dernier trimestre est extraordinairement élevé. Le greffier principal du tribunal de révision administrative, Michael Hawkins, indique que la juridiction a finalisé 3 886 dossiers de visas étudiants en 4 mois. Il en ressort que 50% des affaires examinées ont conduit à une décision modifiée, les dossiers étant renvoyés à l'autorité initiale pour un nouvel examen. Des jeunes Libanais qui ont rencontré le pape Léon se disent pleins d'espoir et d'optimisme après l'avoir vu. La rencontre a eu lieu le deuxième jour de la visite du pape au Liban, après une étape auprès de la communauté catholique du pays. Le souverain pontife a ensuite dialogué avec des représentants des communautés sunnites, chiites, druzes, des travailleurs migrants et d'autres chrétiens. Sophia Saliba affirme qu'elle se sent portée et réconfortée par cette rencontre.
I'm very optimistic about this meeting, mostly for its spiritual dimension. It showed that what unites us Lebanese is peace, and we are always striving for it. Even if each person does it in a different way, we will come together in the end for the sake of peace for Lebanon.
Le pape décrit son voyage comme une mission de paix et appelle les dirigeants libanais à persévérer dans leurs efforts après la guerre dévastatrice de l'année dernière entre Israël et le Hezbollah soutenu par l'Iran, ainsi que la poursuite des frappes israéliennes sur le Liban. Deux semaines après son dernier passage à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est de nouveau entretenu avec Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Volodymyr Zelensky, à l'issue de cette rencontre, s'est dit optimiste quant aux efforts visant à réviser le plan de paix proposé par l'administration Trump, affirmant que le travail s'accélère. Pour les deux dirigeants, les Européens doivent être inclus dans les discussions en cours. Anastasia Beko pour RFI revient sur cette rencontre.
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky n'ont pas fait que se parler en tête-à-tête. Ils ont aussi eu une série de conversations téléphoniques avec plusieurs dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz ou encore le britannique Keir Starmer. Pour le président ukrainien, il est injuste d'écarter les Européens des pourparlers.
La question de l'argent, de la reconstruction sans la présence des partenaires européens, ce n'est pas facile. C'est difficile parce que l'argent se trouve en Europe et je pense que ce n'est pas très juste.
Il y a des questions en revanche que le président ukrainien devra traiter seul, comme celle des territoires. Volodymyr Zelensky a dit d'ailleurs souhaiter des pourparlers avec Donald Trump sur les questions clés. De son côté, Emmanuel Macron a salué les efforts de médiation américains, tout en soulignant l'importance de la mobilisation de tous.
Il faut bien voir que cette médiation américaine, elle concerne les Américains avec les Russes. Et ils se sont concertés avec principalement l'Ukraine, ce qui est normal, et avec nous. Mais ça n'est pas un plan de paix complet. Le plan de paix complet, il faudra l'Ukraine autour de la table, la Russie autour de la table et les Européens autour de la table. Donc c'est pas encore maintenant.
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont aussi échangé avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff qui doit rencontrer Vladimir Poutine demain à Moscou.
Volodymyr Zelensky a également reconnu les avancées russes récentes sur le terrain, tout en insistant sur le fait que la Russie a subi ses pertes les plus lourdes depuis le mois d'octobre. Ces commentaires font suite à ce que des responsables américains ont qualifié de pourparlers productifs visant à affiner un plan critiqué en Ukraine comme étant trop accommodant envers la Russie. Et on reste en France avec cette fois-ci le Premier ministre Sébastien Lecornu qui tente de trouver cette semaine un compromis sur le budget de la sécurité sociale. Ce texte, qui sera examiné à l'Assemblée à partir de ce mardi 2 décembre pour une nouvelle lecture décisive. Ce lundi 1er décembre, le chef du gouvernement recevait successivement à Matignon les responsables du Parti socialiste et du PCF. Il rencontrera les représentants des écologistes ce mardi, puis ceux du RN ce mercredi. Retour sur cette tractation avec Raphaël Delvolvé.
Le patron du PS a totalement abandonné le ton inflexible du début des négociations budgétaires, Olivier Faure à la sortie de Matignon.
Il y a un moment de responsabilité, nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis.
Le chef du PS assure obtenir le soutien du Premier ministre pour faire réapparaître dans le texte les concessions du gouvernement effacées depuis par les sénateurs.
Sur le fait que la suspension de la réforme des retraites soit effectivement maintenue, que les prestations sociales, les pensions de retraite ne soient pas gelées, que les franchises médicales ne soient pas appliqué.
Mais les socialistes ne promettent pas à ce stade de vote favorable ou d'abstention et en appellent aux autres membres du socle commun notamment la droite et l'air.
Il faut que la responsabilité, elle soit dans tous les camps.
À la veille de la reprise des discussions, Sébastien Lecornu met la responsabilité sur chaque parlementaire.
Moi, je respecte les opinions des uns et des autres. J'ai même été amené à endosser des idées qui n'étaient pas les miennes. Et donc, à un moment donné, les parlementaires, ils sont là, évidemment, aussi pour débattre, pour amender. Personne ne pourra se dérober de sa propre responsabilité.
Le Premier ministre prévient, ils auront des comptes à rendre à leurs électeurs.
Les parlementaires, ils sont là pour rassurer les Français sur le fait qu'il y aura bien un budget pour la sécurité sociale dans les temps.
Ce vote en seconde lecture du budget de la Sécu, moment de vérité, est attendu dans une semaine au Palais Bourbon.
En attendant la reprise des discussions ce mardi, les syndicats sont mobilisés pour une journée de grève. La CGT, le FCU et Solidaires, qui s'inquiètent d'un texte défavorable aux services publics, ont appelé à cette action sociale. De son côté, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, affirme que ce mouvement social aura peu d'impact sur les transports. Il signale qu'un trafic normal est prévu pour les TGV. Quelques perturbations sont quand même signalées sur certaines ligne des Intercités et des TER, notamment la ligne C en Île-de-France. Retour en Australie où le gouvernement fédéral annonce qu'un plan national pour l'intelligence artificielle sera mis en place avec pour objectif de stimuler les opportunités d'investissement mondial en Australie. Cette feuille de route est publiée après des consultations qui ont débuté en 2023. Le gouvernement avait déclaré alors et surtout au mois d'août dernier, que l'IA deviendrait une priorité nationale. Il avait ensuite entamé des consultations sur des changements dans la législation sur le droit d'auteur visant à protéger les industries créatives contre les menaces posées par cette technologie. Dans ce cadre, le gouvernement a également engagé près de 30 millions de dollars pour établir l'Institut de sécurité de l'IA au début de l'année prochaine. Le ministre de l'Industrie, Tim Hayes, affirme que ce plan offre une orientation claire pour le gouvernement, l'industrie, les chercheurs et les communautés, avec l'ambition d'attirer aussi les investisseurs internationaux.
Firstly, making sure that Australia captures the economic opportunity, the productivity opportunity, making AI technology here, as well as taking the best of artificial intelligence technology into Australia to do important national interest things. It's also about making sure that we share the benefits amongst small workplaces and big workplaces. And finally, it's about making sure that we keep Australians safe.
Un avertissement de sécurité a été émis par l'Agence nationale des médicaments concernant l'Ozempic, un traitement utilisé contre le diabète de type 2 et l'obésité. La Therapeutic Goods Administration, TGA, a mis à jour les informations relatives à cette classe récente de médicaments, les agonistes des récepteurs GLP-1, en signalant un risque accru de pensée suicidaire. Ce groupe inclut notamment le semaglutide, commercialisé en Australie sous le nom d'Ozempic, administré par injection hebdomadaire et largement utilisé pour la perte de poids. La TGA recommande aux patients prenant ce traitement d'informer leur professionnel de santé s'ils ressentent une dépression nouvelle ou aggravée, des idées suicidaires ou tout changement inhabituel d'humeur ou de comportement. Et à présent, un aperçu de la météo à travers l'Australie pour ce mardi 2 décembre. Perth, temps partiellement nuageux, 37 degrés. Adélaïde, ciel se dégageant, 22 degrés. Melbourne, une ou deux averses et 18 degrés. Hobart, temps nuageux et 17 degrés. Canberra, partiellement nuageux et 22 degrés. Wollongong, généralement ensoleillé, 21 degrés. Sydney, généralement ensoleillé également avec 23 degrés. Newcastle, temps ensoleillé, 22 degrés. Brisbane, ensoleillé également avec 30 degrés. Cairns, quelques averses et orages possibles avec un maximum de 33 degrés. Et pour Darwin, temps partiellement nuageux et 35 degrés. Fin de cette édition. Après une courte pause, on retrouve Christophe Mallet pour le magazine des sports.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world! Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.